et bienvenue donc à cette soirée organisée par Territoire Pionnier dans le cadre du festival Chantier Commun.
Nous sommes donc ravis d'accueillir
ce soir à échelle inconnue. Merci
à Elliot
d'avoir pensé à nous aussi pour participer et accueillir cette table ronde. La discussion de ce soir, elle s'inscrit assez naturellement dans la continuité des projets que nous menons depuis plusieurs années à échelle inconnue, notamment autour de l'Axe Seine, donc avec notre projet cinéma sur les cultures, mais aussi avec la réhabilitation du foyer Moïse à Rouen. D'une certaine manière, ces projets peuvent eux aussi être compris comme des formes de contre-projets. Et je ne vais pas m'attarder sur les détails. Je pense que Stani, donc, qui participe à la table ronde, en reparlera aussi tout à l'heure. Merci donc aux intervenants, donc Mariana Tournon, Milena Koutani et Xavier Boukianeri, j'espère que j'ai bien prononcé, qui travaillent donc également à leur manière sur ces pratiques de contre-projet, de déprojet ou de production d'alternatives urbaines. Et donc, je précise aussi que c'est la seconde fois que nous accueillons Mariana à échelle inconnue. Elle était déjà venue en décembre 2024 lors d'un doctorat sauvage organisé dans le cadre de la programmation « Le foyer Moïse peut-il s'éteindre ?». Elle était accompagnée donc, d'habitants du foyer Branly à Montreuil et nous avions discuté de la manière de faire feu avec les habitants qui éprouvent souvent donc, un sentiment d'injustice face à des projets urbains qui transforment leur quartier et leur vie sans les impliquer. Et c'est aussi d'une certaine manière une petite preuve de l'efficacité possible des contre-projets, puisqu'à l'époque où Mariana était venue, le foyer Moïse était menacé de destruction, alors que ses habitants et usagères en demandaient la réhabilitation, et qu'aujourd'hui, le foyer Moïse devrait finalement échapper à cette démolition. Donc pareil, je pense qu'on en rediscutera, mais en tout cas, quelque chose s'est passé. Voilà, c'est tout. Et donc, je te laisse la parole maintenant, Elliot, donc qui est Elliot Deforge, qui va animer la discussion et qui va présenter en détail les interventions, je pense.
Merci. Merci, Julie. Merci à échelle inconnue pour recevoir la table ronde. Et merci aux intervenants qui sont ici ce soir. Avant de commencer, je voulais juste rappeler un peu l'origine de cette rencontre et pourquoi j'ai décidé de parler de contre-projet ici à Rouen. En fait, Chantier Commun, du coup, moi je travaille à Territoire Pionnier, qui est une association canaise qui porte notamment le festival Chantier Commun, qui est un festival culturel qui dure 3 semaines au mois de mars depuis maintenant 8 ans. Et le but de ce festival, c'est de penser le devenir des territoires, de réfléchir à une manière d'habiter, donc avec plutôt une entrée architecture, écologie, urbanisme, paysage, mais aussi réfléchir très concrètement à comment on va vivre demain ici en Normandie. Et donc, en gros, on organise une 50aine de rendez-vous au mois de mars, gratuits, expositions, ateliers, activités, rencontres comme celle-ci, avec l'idée vraiment de poser ces questions sur la table et de se questionner collectivement pour faire chantier commun. Et l'an dernier, pour la 7e édition, on avait reçu Karim Layani, donc Karim Layani, urbaniste, paysagiste, toulousain, qui a notamment travaillé sur le contre-projet de la 69, donc vous savez, cette autoroute contestée entre Toulouse et Castres. Et on l'avait reçu, et ses travaux, cette discussion qu'on avait menée avec lui, avait été extrêmement intéressante, beaucoup de questions et d'échanges avec la salle. Et du coup, on s'est dit tout naturellement que cette année, on allait reconduire cette question-là du contre-projet, mais plutôt essayer de l'ancrer localement, ici en Normandie, parce que ça paraît loin. Et c'est assez naturellement qu'on a pensé à échelle inconnue pour accueillir et accompagner cette rencontre. Pas seulement pour évidemment le parti pris engagé de la structure qui est assez unique en France, mais aussi parce que la localisation ici à Rouen est particulière. Moi, je suis cannais, je ne connais pas beaucoup Rouen, mais de penser, on est quand même sur une métropole de plus de 500 000 habitants, sur la Seine, qui accueille le plus grand port céréalier d'Europe de l'Ouest, avec un ensemble de sites industriels assez impressionnants qui sont connectés par un dédale d'infrastructures routières et fluviales, qui en font un objet extrêmement intéressant à penser et qui font de Rouen en fait un endroit où se croisent beaucoup de questionnements et de pratiques de l'urbanisme contemporain avec des opérations de projets autoroutiers, des opérations de rénovation urbaine, également des constructions de complexes immobiliers et sur la Seine un ensemble de projets. On parlera plus territoires qui voilà, concentrent un certain nombre de pratiques qui sont aujourd'hui très contestées dans l'urbanisme et l'architecture contemporaine. L'an dernier, Reporter, donc le média, recensait sur sa carte interactive près de 600 luttes locales en France, des conflits d'aménagement qui portent sur des sujets variés et qui contestent aujourd'hui des manières de produire l'espace et de fabriquer le territoire. Et ça regroupe un ensemble de pratiques extrêmement variées. Ça va être la petite collectif d'habitants qui se mobilisent contre le projet d'extension de ZAC à une mobilisation contre un énorme projet d'infrastructure. On est vraiment sur des projets extrêmement variés et qui recourent aujourd'hui à des formes de lutte assez comme la pétition, le rassemblement devant la préfecture, la mobilisation d'outils juridiques. Et parmi un peu les outils qui sont mobilisés par les militants, on voit aujourd'hui émerger la notion de contre-projet. Donc le contre-projet ou l'alternative, on a le droit de cette différence sémantique ce soir, il entend proposer un autre futur pour le territoire concerné par un projet, ouvrir d'autres perspectives. Et aujourd'hui, il prend la forme, des formes assez multiples, notamment, j'en ai sorti quelques-uns, vous avez peut-être vu dans notre précédente rencontre autour de projet, on a les travaux de Karim Layani, dont je parlais avec le contre-projet à la 69 qui était porté par une véloroute nationale. Il a également travaillé sur la ZAC, un projet d'extension de la métropole nantaise sur une dizaine d'hectares, donc la ZAC des Doulon-Goars. Et donc, il a proposé un projet de démétropolisation, notamment avec réinvestir les surfaces agricoles qui vont être détruites. Mais il n'y a pas que Karim Layani qui fait des contre-projets en France. On est sorti trois autres. On a le contre-projet Karma, donc sur les terres du Triangle de Gonesse. Le Triangle de Gonesse, c'est au nord de Paris. On est sur les dernières, on va dire, zones agricoles fertiles du nord parisien. Et on a un collectif, un groupement d'acteurs, donc à la fois issus du monde militant, mais pas que, avec aussi des acteurs du monde agricole, qui ont monté pour proposer cet contre-projet pour réutiliser les terres agricoles et faire un vrai projet, on va dire, autour des questions alimentaires et favoriser, évidemment, l'accès à une alimentation bio à bas coût et émancipatrice pour aussi les agriculteurs qui. Dessus. Je vous ai mis également le contre-projet, un projet de construction de 400 logements au Bois Hardy à Nantes. On a également des riveraines qui sont mobilisées pour défendre non pas une densification, mais plutôt une réappropriation des terres et des espaces agricoles pour favoriser la convivialité et également la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre, entre autres. Et là, je vous ai mis un exemple un peu plus local à Caen contre le projet d'une halle gourmande devait se mettre sur une place publique à Caen et qui a été contestée pendant 10 ans par des habitants, par des associations, avec notamment un contre-projet plutôt de jardin, de place publique. Et faut savoir que l'an dernier, cette halle gourmande a été annulée et on a choisi, le maire a décidé de faire un jardin sans faire référence au projet, mais peut-être que ça. Donc voilà, simplement pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces formes de contre-projets qui prennent place à des échelles très variées sur des projets extrêmement différents et partout en France. Et notamment ici, à Rouen et le long de l'Axe Seine. On va voir ce soir avec nos différents invités. Pour un peu de contexte, on va essayer de parler pendant une petite heure, pas plus, et ensuite ouvrir vraiment la discussion à vous, l'ensemble de la salle, partager vos questionnements, vos expériences et vos avis aussi sur cette dynamique-là. Et le but, ça va vraiment essayer de comprendre ce que c'est un contre-projet, qui sont les acteurs et actrices qui comment ça se construit, avec quels outils. Ensuite, également essayer de comprendre comment ça peut changer ou pas le projet contesté. Est-ce que ça peut faire infléchir des positions politiques? Est-ce qu'au contraire, ça peut rien changer du tout? Et également se poser ensuite, plus généralement, la question de comment on fabrique le territoire, comment le contre-projet peut démocratiser ou pas les enjeux de production de l'espace et comment en fait ça peut bousculer les pratiques traditionnelles d'un corps de métier qui va des urbanistes aux architectes, en passant par les paysagistes, naturalistes, les ingénieurs, et un ensemble de professions intermédiaires qui font qu'on est tous quasiment impliqués d'une manière ou d'une autre dans la fabrique du territoire, mais à des rôles très divers. On peut simplement être consultant de temps en temps, simple citoyen, ou alors être complètement aux manettes. Et on va essayer de réfléchir à comment en fait, le contre-projet nous invite à renverser cet ordre traditionnel des choses pour répondre aux urgences qui sont les nôtres, à la fois sur le plan écologique et sur le plan social. Et donc, pour aborder toutes ces questions et pour avec ce monologue et qu'on parle enfin. Désolé. Technique qui me dit de me taire. J'ai la chance d'être accompagné par quatre invités au profil complémentaire qui vont pouvoir nous renseigner un peu sur ces pratiques. Donc, si je commence, on va dire, dans un sens un peu plus académique. On a Milena, qui est architecte et docteur en architecture sur une thèse sur les communs. Stani, architecte et fondateur d'Échelle Inconnue. Mariana, de l'association Appui. Et Xavier, qui est ingénieur architecte et également doctorant. Et pour commencer et permettre à chacune de se présenter un peu plus en détail, j'aimerais commencer avec cette petite question. Comment vous, dans vos travaux et vos pratiques professionnelles, vous avez rencontré cette question-là des contre-projets? Et je commence peut-être avec une des locales de l'étape, Milena.
Merci. Moi, du coup, même si cette thématique-là, elle m'intéressait avant même de commencer mon doctorat, c'est vraiment avec ma thèse sur les communs qui m'a permis vraiment de mieux comprendre les enjeux des contre-projets. Puisque, comme tu viens de le dire, je me suis vraiment focus sur le commun, mais aussi les communs urbains. Et sans en partir dans un tunnel, mais ce qu'il faut comprendre sur les communs, c'est que ça a été particulièrement théorisé avec la gouvernance des biens communs d'Elinor Ostrom et que depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais que le mouvement des communs, en fait, il se traduit par des collectifs ou des communautés à l'œuvre qui font prévaloir un droit d'usage sur la seule propriété privée exclusive. Et justement, en promouvant un mode de production assez alternatif qui est vraiment en opposition avec le modèle de production capitaliste tel qu'on le connaît. Et c'est surtout, ces collectifs-là se mettent en œuvre, suite, à une défiance à l'égard de l'État, mais aussi du marché, à nous assurer à tous et à toutes un futur soutenable. Donc, on y retrouve tout ce qui est des gestions collectives autour de ressources naturelles, mais aussi des logiciels libres. Moi, en ce qui me concerne, avec les communs urbains, c'était autour de problématiques liées au droit à la ville et aussi à la terre en ville, la défense des droits fondamentaux, justement, dans l'espace urbain, et on y retrouve que des squats, des espaces autorisés qui peuvent être coopératives. Et donc, par rapport à cette thématique-là liée à ma thèse, où j'ai convoqué des références telles que Dardot et Laval, que vous avez peut-être pu lire, puisque leur ouvrage sur le commun a pas mal fait parler. J'ai pu suivre des terrains d'enquête tels que les jardins joyeux, les terrains que je vais citer, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent, mais donc les jardins joyeux qui sont un collectif, toute une lutte urbaine qui a lutté contre un projet immobilier de 2021, on va dire jusque 2023 à peu près. Les bouillons de terre d'avenir, donc là c'est beaucoup plus ancien, entre 2012 et 2015, qui a été toute une ZAD pour justement préserver toute une ferme qui était qui vaut la destruction. Et également le 40, qui est la rive gauche, et qui souhaitait aussi préserver une parcelle contre justement un projet immobilier encore. Et donc j'ai pu suivre les contre-projets des Jardins Joyeux et du 40, et aussi revenir sur toute l'histoire des bouillons presque 10 ans après. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop long.
Moins synthétique, moi c'est toujours un peu plus bordélique, mais moi j'ai jamais eu l'impression d'avoir fait autre chose que du contre-projet, même si le terme de contre-projet pose y compris à moi plusieurs questions. Moi j'ai découvert à peu près au moment du diplôme en architecture. Donc, moi j'ai fait deux fois mes études, j'ai fait une fois mes études en archi, ensuite j'ai fait quasiment doubler mes études avec un dramaturge qui s'appelait Armand Gatti, et j'avais pris un de ses textes comme programme pour mon diplôme, et qui intervenait sur Sarcelles. Donc on est en 95, donc avant l'ANRU, on est déjà sur les ritournelles de « Ah, ces lieux détestables qu'il faut, comme chez Metoff ou Castro, proposer de faire des trous dans les bars pour l'époque », des choses comme ça. Et moi, j'avais travaillé essentiellement sur la dimension de la mémoire, puisque c'est très mal la mémoire, parce que les gestionnaires, la première chose qu'ils ferment en général dans les cités, c'est les caves. Et c'est horrible, les caves, il y a forcément. Donc voilà, c'est un truc de fantasme du gestionnaire, c'est la cave, il faut la murer. Donc en effet, on ne peut plus stocker le meuble de la grand-mère. Donc quand on va aux encombrants à Sarcelles, c'est rempli, peut-être ces meubles, eux aussi, de la consommation comme ça. Mais aussi, moi, ce qui m'intéressait, c'était le projet même de Sarcelles, qui a été construit entre autres par la Caisse des dépôts et consignations, qu'on trouvait aussi dans le projet qui nous occupe aujourd'hui. Sur les biens spoliés des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, sur un modèle d'immeuble qui avait été construit à Drancy, qui a servi ensuite de camp. Et j'avais proposé, je ne parle jamais de méthodologie, j'ai parlé une fois de méthodologie dans ma vie, j'avais proposé d'utiliser plutôt la méthodologie du terrorisme face à quelque chose qui serait de la guerre totale de l'urbaniste. Donc j'avais réussi à faire entrer l'anarchiste cookbook à la bibliothèque. C'était essentiellement pour ça que j'ai passé mon diplôme, c'était le seul intérêt, c'était le fait que l'anarchiste cookbook entre la bibliothèque de l'école d'archi. Et ça a été la naissance d'Échelle Inconnue, puisque c'était un moment de réforme. Il fallait devenir en effet enfin des pros. Il fallait fournir des plans, des coupes, des façades à l'échelle. Autrement dit, pas des coupes de quoi, ni des façades de quoi, ni à quelle échelle. Présenter des coupes, des façades d'engins explosifs à échelle inconnue. Et c'est passé. Parce qu'ils étaient obligés de le laisser passer. Donc le contre-projet, pour moi, ce n'est pas uniquement dans la projetation, dans l'acte de dessiner un projet, c'est aussi dans l'acte d'entendre les règles et voir comment, dans les règles, on peut jouer contre les règles, on peut faire jouer les règles contre elles-mêmes. Et aussi, plus fondamentalement, j'y reviens, enfin, le fait d'utiliser comme programme le texte d'un poète, je crois que c'est ça aussi, manque aussi dans la projetation actuellement, c'est qu'on... Y compris dans la militance, hein, le langage militant est quand même un langage qui a ses limites, qui ne permet peut-être pas d'ouvrir des potentiels futurs pas suffisamment désirables pour le langage.
Bonjour tout le monde. Donc, moi, en fait, je m'intéressais quand même au contre-projet. Enfin, j'en avais entendu parler avant d'être à Appui, mais c'est surtout en étant salarié de l'association Appui que je me suis confrontée à cette pratique-là. Et en fait, on parle plutôt dans l'association de projets alternatifs. Que le nom de l'appui, ça veut dire alternative pour des projets urbains ici et à l'international. Et en fait, l'association a été fondée sur une coopération en fait, entre des étudiants et étudiantes en architecture de l'école de Paris-Lavillette et leurs enseignants et enseignantes. Et des militants de quartier, à l'époque, c'était le quartier de la Coudrée à Poissy, dans les Yvelines, dans l'ouest de la région parisienne. Qui luttaient contre la destruction programmée de leur quartier. Et donc, en fait, qui ont fait appel à ces enseignants et enseignantes qu'ils avaient croisés, en fait, puisque personnes qui portaient un discours, notamment contre les démolitions de logements sociaux, et en fait, les ont un peu interpellés en disant, finalement, nous, on a besoin de vous pour proposer, en fait, justement, des alternatives à la démolition, pour montrer que c'est possible de faire autrement et que c'est quelque chose qui est désiré aussi par les habitants de ces quartiers-là. Et donc, en fait, de là est née une collaboration avec l'école de la Villette. Et avant la création de l'association Appui, mais l'association a été créée un peu dans la suite de cette collaboration pour la Coudrée à Poissy. Et voilà. Et depuis, c'est un peu dans les activités principales que fait l'association, puisqu'on accompagne les collectifs d'habitants et d'habitantes qui ont des projets imposés. Donc, c'est vrai que on est intervenu dans des contextes de rénovation urbaine pilotés par l'ANRU dans des quartiers populaires de la politique de la ville. Mais on est aussi amené à intervenir dans d'autres cadres, et notamment c'est le cas du foyer Branly, en fait, qui est aussi politique de rénovation urbaine, même si ce n'est pas piloté par l'ANRU, et du coup qui passe par la démolition reconstruction. Et voilà. Et donc on accompagne ces collectifs pour décrypter un peu les projets auxquels ils font face. Et puis ensuite, leur apporter des outils, notamment les outils de l'architecture, proposer en fait d'autres projets, soit représentatifs de ce que veulent en fait les premiers concernés pour leur habitat et pour leur lieu de vie. Voilà. Mais voilà un peu comment on est amené à travailler sur des cours.
Pardon. En ce qui me concerne, moi c'est un peu particulier parce que ça arrive à la jonction entre deux postures différentes. Membre d'un collectif qui s'appelle les Batsiros des Terres, qui se propose d'appuyer les luttes sociales et écologiques avec les savoirs professionnels du bâtiment. Et dans ce cadre-ci, j'ai rencontré la lutte contre l'entrepôt des Green Dock à Gennevilliers, et je leur ai proposé de les aider, de les outiller un petit peu dans leur réflexion, et petit à petit, et ça s'est imposé comme un travail de thèse, qui est l'autre front de cette réflexion-ci. Où je fais une thèse en architecture sur les outils du démantèlement. Comment, quelle forme d'inscription, quelle pratique nous permettent de renoncer à des choses. Et il se trouve que le fait de renoncer un peu au futur de Green Dock, en tout cas celui qui est imposé ou dans lequel le territoire est bloqué, c'est imposé comme un territoire de réflexion très pertinent. Voilà, on a la jonction entre deux mondes.
Quel honneur, merci. Et peut-être, Xavier, tu peux pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Toi, le projet que tu suis du côté de Green Dock, donc Gennevilliers, pour resituer, c'est de Paris, au nord de Paris, un des grands ports parisiens, le port de Gennevilliers. Peut-être nous dire comment est ce contre-projet, quelles les formes qui ont été prises par celui-ci, avec quels acteurs.
Ben, le contre-projet de Green Dock, en gros, Green Dock, d'ailleurs, elle a un nom maintenant, ce contre-projet s'appelle Grenier Rouge, pour les Green Dock. Donc, l'entrepôt des Green Dock, c'est un énorme entrepôt de logistique qui est dans le nord du port de Gennevilliers. Vraiment un très grand entrepôt et qui est vraiment représentatif de d'un modèle de logistique international. Quoi. On importe des marchandises très loin, on a des robots qui crient sur des ouvriers racisés pour leur dire comment charger des marchandises. Et il y a une lutte qui s'est montée, qui est assez singulière dans sa sociologie parce qu'elle est à la jonction entre des luttes de riverains, plutôt, qui sont des gens qui habitent à proximité de l'entrepôt, qui sont mobilisés contre la construction de ça, des luttes écologistes, parce que l'entrepôt est à proximité d'une zone Natura 2000 et va avoir un impact assez fort sur cette zone-ci, et des luttes du travail. Où, en fait, là, petit à petit, à mesure de la lutte, l'espace de contestation s'est élargi pour englober les luttes des travailleuses du port de Genève. Et donc, je crois que ça part de la rencontre au tout départ. Moi, je n'étais pas encore dans le projet à ce moment, entre les militants écologistes et les luttes du travail. Donc, ils étaient sur un lieu de grève des salariés de Géodis. Et il y a un délégué syndical qui dit qu'il faut que vous élargissiez le cahier des revendications. Et ce qui a été compris par les militants comme, OK, faisons un contre-projet, proposons un changement de direction à l'échelle du port. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sort de ce modèle-ci. Et donc, moi, j'entre dans le contre-projet à peu près à ce moment-ci. Ils étaient collectivement en train de fabriquer un petit peu des éléments de programme. Je veux que j'en dise plus.
On va s'arrêter là pour la première version de la question. Et j'aimerais un peu remonter du côté de la... Quand on remonte du côté de la scène, on a vu des collectifs de travailleurs avec des militants écologistes. Le projet touche évidemment des gens qui sont concernés dans la question de l'habitat. Et je voulais savoir un peu, bah, peut-être commencer par toi, Milena, sur la question de... Du jardin, les jardins joyeux, revient un peu sur comment s'est monté le contre-projet, à quel moment en fait il est arrivé dans la lutte aussi, si tu peux revenir là-dessus.
Moi, après, les jardins joyeux, je les ai vraiment cueillis au tout début, c'est-à-dire que je suis rentrée sans savoir que ça allait devenir un de mes terrains d'études, mais juste parce que le lieu venait de s'ouvrir et que ça m'intéressait. Et donc, c'était avant même qu'ils créent tous des espaces, qu'ils déblaient, parce que c'était vraiment. Donc, ils ont occupé le foyer Sainte-Marie, qui est dans le quartier Saint-Nicaise, qui est un quartier assez dense, historique, qui est aussi qui a déjà été marqué par des luttes urbaines comme Nuit debout, avec aussi tout le combat en fait pour la préservation de l'église Saint-Nicaise. Donc, il y avait tout un déjà là contestataire qui était quand même bien présent. Je veux dire, c'est pas venu tout seul de nulle part en fait l'occupation des précédents squats en fait où il y a eu des fêtes et tout ça à l'intérieur. Et donc, le lieu, il a été ouvert. On a découvert, en effet, qu'il y avait un projet immobilier qui prévoyait de raser une bonne partie en fait, du foyer Sainte-Marie, de détruire les jardins qui étaient en terrasse, arborés, qui étaient vraiment sauvegardés depuis mais vraiment très, très longtemps. Il y avait tout un écosystème quoi, en fait, qui existait sur le lieu. Il y avait une chapelle. Il y avait un théâtre de poche qui n'existe plus et aussi d'autres, enfin toute une matrice patrimoniale vraiment hyper intéressante et sur lequel une association de défense du patrimoine, la Boisse de Saint-Nicaise, a fait toute une recherche dessus, vraiment hyper approfondie. Et donc en fait, quand ils ont ouvert les lieux, c'était, il n'y avait pas de contre-projet qui existait à ce moment-là, c'était plus déjà, waouh, ce lieu est juste immense. Et les habitants, enfin les riverains du quartier ont découvert le lieu pratiquement avec les jardins joyeux et ont découvert en fait ce qu'ils étaient sur le point de perdre parce qu'en fait ils découvraient aussi le projet immobilier quoi. Donc en fait il y a toute une mobilisation qui s'est faite déjà pour préserver les jardins, pour les sanctuariser. Il y a notamment, il y avait eu précédemment tout un permis de construire modificatif qui avait été fait pour d'identifier un petit peu le projet immobilier qui a pu fonctionner, mais c'était quand même pour une catastrophe, en fait. Et donc, à partir de là, il y a tout un contre-projet qui s'est monté avec des associations de défense de l'environnement et aussi de défense du patrimoine architectural rouennais. L'idée, c'était notamment voilà, de sanctuariser les jardins, de promouvoir tout du maraîchage urbain où, en fait, l'association des jardins joyeux sera en convention en fait, avec la ville pour pouvoir s'en occuper. Aussi défendre toute la matrice patrimoniale, faire de la réhab. Enfin, vraiment, il y avait tout un projet. Mais le problème, c'était une frontière qui serait... Parce que ça coûtait énormément d'argent. Et aussi, en fait, il y avait le permis de... Bon, qui allait avancer. Et donc, à partir de là, c'était très compliqué en fait, de défendre ce projet-là. Il y a eu une sorte de bras de fer entre la municipalité et les jardins joyeux, avec le promoteur qui n'était pas du tout content de ce qui se passait, parce qu'il y a eu, par exemple, les vitrines du promoteur qui ont été dégradées. Enfin, il y avait eu des actions dans la ville. Donc c'était très compliqué, mais ce contre-projet, il a essayé de se faire petit à petit. Et par exemple, c'est une différence avec les bouillons sur lesquels je pourrais venir plus tard, qui a notamment pu bénéficier un peu de l'expérience justement des militants des bouillons. Et enfin voilà, ils ont quand même réussi un peu, voilà, déjà à dédensifier le projet, à conserver le fond de la parcelle un peu arborée, mais c'est la catastrophe, elle est quand même là, quoi. Le projet, c'est quand même.
Ouais. Voilà. Et comme tu l'as dit, je trouve que c'est intéressant de dire que les contre-projets arrivent toujours en cours d'un projet qui est déjà lancé, sur lequel il va falloir rattraper son retard et essayer de proposer une forme de contre-expertise. Et ça, même dans les luttes qui ne sont pas forcément écologistes. Je pense aussi à la question, bah, tu l'as dit, de l'ANRU, Mariana, sur les opérations de rénovation urbaine où on détruit plus qu'on rénove. Est-ce que toi, tu peux aussi un peu revenir sur les multiples opérations que tu as pu suivre, là où en fait les gens sont pas au courant?
En effet, souvent, nous, quand on intervient, en fait, c'est que les habitants apprennent qu'il y a un projet qui va bouleverser en fait leur lieu de vie, et ils l'apprennent souvent quand les choses sont déjà un peu jouées. Donc, c'est-à-dire, bon, ça va être la convention en rue, par exemple, a été signée, et en fait, ils publient après les acteurs locaux la décision. Alors, c'est pas toujours le cas, mais voilà, ça arrive souvent. Nous, ce qu'on peut-être je peux revenir un petit peu sur ce qu'on met en place aussi pour répondre à ça, en fait, à cette situation. C'est-à-dire que la première étape, un petit peu, c'est de faire une méthode, ce qu'on appelle de co-construction. Donc, c'est d'affirmer le fait qu'on peut faire un projet pour un quartier avec ses habitants, et qu'en fait, c'est une méthode qui est possible et qu'on n'est pas obligé d'imposer ces projets-là à la population, quoi. Donc, c'est le premier préalable, on va dire. Donc, ça passe par des ateliers de travail avec les personnes concernées, pour réfléchir au quartier, donc avec des maquettes, des plans, enfin voilà, pour avoir un peu des outils aussi comme ça, visuels, pour pouvoir se projeter un peu sur l'avenir du quartier. Ensuite, on est aussi sur un enjeu qui est important en fait dans cette démarche-là, c'est celui de proposer aussi des contre-expertises. Parce qu'en fait, souvent, les projets de rénovation urbaine, mais ça peut être en rue ou hors en rue, hein, mais auxquels sont confrontés les collectifs, on accompagne, ce sont des projets en fait qui vont par exemple dire le problème de ce quartier, c'est son peuplement. Et donc en fait, nous, c'est des choses qu'on va contester en fait. Donc on va contre-expertiser, enfin on va apporter d'autres arguments, du coup montrer par exemple la vitalité d'un quartier, ou là c'était un contre-diagnostic plus technique que j'ai montré, mais par exemple des immeubles qui vont être démolis, en fait le bailleur va dire oui, mais ils sont dans un état trop dégradé. En général, ils sont dans un état dégradé parce qu'il y a eu un laisser-aller en fait, par le gestionnaire qui n'entretient plus les bâtiments en prévision de faire le projet de rénovation urbaine. Donc c'est voilà, et pour accélérer et puis aussi pour après argumenter le bien fondé de ce projet. Donc là, l'exemple que je montre, c'est de contre-diagnostic technique, c'est à l'Alma Gare à Roubaix, où on a fait intervenir des étudiantes et étudiants qui ont notamment fait le diagnostic en fait technique de certains immeubles, à la fois les parties communes et les parties privatives, donc les logements, en montrant en fait que les matériaux étaient en bon état, qu'il y avait une dégradation qui était due au manque d'entretien, et que c'était quelque chose de tout à fait rattrapable et qui n'était pas du tout irréversible et qui n'impliquait pas forcément automatiquement la démolition. Ensuite, on peut avoir aussi des contre-diagnostics plus qualitatif, on peut dire, c'est le cas de ce qu'on a fait au foyer Branly, en fait, où on a réalisé une enquête là au printemps dernier, en 2025. Donc le foyer Branly, c'est un foyer qui est concerné, comme je le disais tout à l'heure, par une démolition-reconstruction, un peu comme ce qu'il voulait faire au foyer Moïse. Et c'est un lieu d'habitat, donc avec des chambres, qui ne sont pas des chambres individuelles, qui sont des chambres partagées, et puis aussi des espaces collectifs qui sont très nombreux. Parce qu'il y a presque 10 espaces collectifs dans le foyer, en fait, dans le sous-sol notamment, avec une cantine, une cafétéria, une salle de prière, une salle qui est appelée salle des fêtes pour les mariages, les célébrations, les baptêmes, les enterrements, voilà. Et puis plein d'autres salles pour des cours d'alphabétisation, des permanences d'accès au droit. Enfin voilà, il y a plein d'activités dans ces espaces. Et en fait, ces espaces sont menacés par la transformation du foyer en résidence sociale, puisque dans cette opération-là, le gestionnaire veut supprimer tout simplement ces espaces collectifs. C'est le cas dans tous les foyers en fait, concernés par ces opérations de transformation. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire un contre-diagnostic d'un de ces espaces qui est un peu le cœur des espaces collectifs du foyer, qui est la cantine. qui est vraiment un lieu de solidarité alimentaire. Et donc, on a fait une enquête auprès des personnes qui vont manger à la cantine pour montrer l'importance de ce lieu, en fait, à plusieurs niveaux, à la fois parce que c'est un lieu de solidarité alimentaire très important avec des prix, des repas de qualité à très bas coût, que c'est un lieu aussi de sociabilité, en fait, où les gens se retrouvent, se repassent des informations, etc. Et c'est un lieu reconnu aussi dans la région parisienne, parce qu'en fait, il y a des gens qu'on a rencontrés qui viennent des villes limitrophes ou même parfois de plus loin pour manger dans cette cantine. Donc ça, c'était un document qu'on a adressé notamment aux gestionnaires, à la ville, à la SILPI, qui est l'organisme au niveau de l'État d'intégration des populations immigrées, pour le terme de ce service. Et voilà, et donc on est encore dans cette dynamique au foyer de contre-projet où là on va plutôt être sur des propositions architecturales en fait, des propositions de que pourrait être cette cantine qui en fait est assez, ne correspond pas aux structures légales que voudrait le gestionnaire. Et donc, du coup, cette cantine, dans le futur, elle pourrait être transformée, peut-être prendre une forme associative. Voilà, donc on est en train de réfléchir un peu à tout ça. Et l'idée, c'est de faire un document qui sera transmis ensuite au gestionnaire pour montrer qu'en fait, c'est possible de conserver des espaces collectifs et notamment cet espace de la cantine en activité dans le foyer. Ça, c'est juste quelques exemples, mais après, je pourrais revenir sur d'autres démarches.
Du coup, Stani, sur le cas qu'on a beaucoup mentionné ce soir, mais pas forcément détaillé, du foyer Moïse, est-ce que... Vous avez vécu les mêmes choses ici ou...
Partie photocopiable. Après, nous, on s'est aussi appuyé sur ce qui n'était pas photocopiable. C'est-à-dire, en effet, toutes ces directives, donc entre autres une circulaire qui s'appelle le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, ça ne s'invente pas, donc qui vise à traiter les foyers en les détruisant, en les reconstruisant parfois ou en prétendant qu'ils vont les construire, part d'une idée simple, c'est que tous les foyers ont la même histoire sur le territoire français. C'est un peu le problème qu'on a aussi, et la conjonction de cette analyse-là et une deuxième analyse qui était que les résidents qui se sont retrouvés... Alors nous, au départ, on n'y allait pas pour défendre le foyer face à sa destruction. Il devait être détruit, c'était acté. Les résidents avaient juste demandé à ce qu'il y ait un film qui soit réalisé pour témoigner de l'expérience politique, entre autres, qu'avait été ce lieu. On leur avait offert quand même... En général, quand il y a une destruction, on appelle toujours un collectif d'artistes, une association... pour faire un petit travail de mémoire. Donc, ils partaient chacun avec leur petit livret, avec des jolis textes, des jolies photos. Pour eux, ce n'était pas complètement satisfaisant. Et c'est au cours du film, en fait, et en filmant les AG, qu'on a compris, que j'ai compris en tout cas, qu'il y avait une sorte de mésentente, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les gestionnaires, les promoteurs de la destruction en définitive et de la reconstruction, et les résidents eux-mêmes. Qui, en fait, le schéma est simple, hein, on a... Une fois, de temps en temps, on appelle les délégués à participer à ce qu'ils appellent un comité de pilotage. Vous arrivez dans une salle où on a l'impression que les gens sont là déjà depuis 2 ans. Vous asseyez au bout de la table et là, il y a quelqu'un qui fait défiler des diapos avec les plans du foyer, charge aux délégués de rentrer au foyer, d'expliquer ce que va être le futur foyer. Autant vous dire que raconter un plan à l'oral, c'est pas simple. Donc ça permet, ça génère en tout cas un paquet d'engueulades. Et donc là, on a proposé un peu benoîtement, dire bah, on est archi, si vous voulez, on vous accompagne, quoi. Et en les accompagnant, on s'est rendu compte que c'était au-delà. Il y avait une stratégie, une technique de manipulation et de méconnaissance du lieu, et surtout une stratégie qui se basait essentiellement sur du récit. C'est-à-dire comment on raconte un lieu, on peut déjà en entamer la destruction. Je ne parle même pas de l'absence de maintenance, etc. Si on dit que tous ces lieux-là sont, comme le dit la page du ministère, construits à la va-vite dans les années 50 pour des types célibataires qui n'étaient pas très propres sur eux et qui forcément l'ont pas bien entretenu, évidemment, on peut tous les détruire. En revanche, si on s'attache à l'histoire particulière de ce lieu, avec le fait que c'est un foyer qui est vraiment une histoire quasiment communale, quoi. Enfin, il n'a jamais été construit par la Sonacotra ou... Ado Coalia, maintenant, je me souviens, l'AFTAM de l'époque. Donc, voilà. Donc, nous, on n'a pas attaqué un contre-projet pour commencer, même si aujourd'hui, on rentre dans l'exercice de projetation, au sens de qu'est-ce que pourrait être ce lieu, quelle pourrait être la réhabilitation de ce lieu. On est rentré d'abord dans un travail de réhabilitation au sens basique du terme, enfin, quasiment au sens légal. On rétablit quelqu'un dans sa dignité ou dans ses droits, ou après Dreyfus a été réhabilité. Voilà, l'idée c'était d'abord réhabiliter le foyer de cette manière-là. Et donc, parce qu'on était, et donc ça c'est la conjonction, c'est, on n'était pas dans un cadre de lutte, ça a été reproché aux résidents d'ailleurs, mais alors je ne comprends pas pourquoi le minimum, il faudrait qu'ils tendent une banderole sur la façade, foyer occupé. Oui, ils ne voulaient pas être là-dedans. C'est des gens qui ont beaucoup de personnes âgées, enfin, ils n'étaient pas du tout là-dedans. On n'était absolument pas dans une dynamique de lutte. Et à chaque fois, ils étaient effrayés par ça. Nous, ça nous allait. Donc, on a suivi simplement le mouvement en l'accompagnant et donc en essayant d'instruire, enfin de réaliser un dossier permettant une reconnaissance éventuelle au titre d'architecture contemporaine remarquable, et en faisant des gestes comme ça qui, pour nous, étaient déjà de la réhabilitation, puisque, comme tu le disais, la destruction, elle commence bien avant les bulldozers, elle commence déjà parce qu'on fait plus le ménage. Donc voilà, c'était en tout cas sur le foyer Moïse, c'était ça. Mais là, on est en effet face déjà à une destruction qui crée souvent une sorte de précipité que les militants adorent, parce que d'un seul coup, on peut s'agréger, ça crée de la synergie, etc. On est aussi dans une ritualisation de l'acte politique et de la militance. Et on a un vrai problème, c'est comment on intervient en amont. Ça, c'est le travail qu'on essaie de faire, nous, sur l'axe Seine. D'ailleurs, se dire que Green Dock, en définitive, ce n'est qu'une des expressions d'un projet géant dessiné par Grimbard, validé par Attali, qui consiste à faire une métropole géante de Paris au Havre. Et que tout ça, bien au-delà d'un projet mortifère qui a balancé le barycentre, c'est technique, mais balancé le barycentre logistique de Paris d'est en ouest, et aussi un laboratoire politique, puisque la gouvernance de tout ça change complètement. Et comment on arrive en amont, et le pari qu'on fait nous, c'est peut-être encore une fois la question du récit, et avant le contre-projet, le contre-récit, être capable d'opposer des imaginaires ou des récits ou des manières d'assembler des choses auxquelles ils ne pensent même pas que les projets vont... Il y a aussi des vols à vue dans ces trucs-là. Hein. On ne voit pas toujours très clairement où ils vont aller. Voilà. Donc, inviter des auteurs, entre autres, à produire des récits autour de ça. C'est un pari. Hein. On en reparle dans 10 ans.
Et cette question-là des récits, elle est assez intéressante parce que j'ai le sentiment qu'elle fait assez écho à ce qui se passe du côté de Green Dock. Sur la question d'aujourd'hui, enfin, au début, visiblement, de ce qu'on en comprend, on part d'une lutte écologiste, d'un projet d'infrastructure géante, 2 fois le Stade de France en termes de hauteur, 400-600 mètres de long. On est quand même sur quelque chose, plutôt, on va dire, du registre écologiste. Et ensuite, on ouvre la porte à des ouvriers de la logistique qui se trouvent sur le port un peu fortuitement. Visiblement, on ne pense pas à cette alliance dès le début. Et ça crée un tout autre récit, un peu qui tranche aussi avec le côté un peu écolo-bobo qu'on aimerait attribuer aux luttes écologistes. Est-ce que tu peux un peu revenir dessus sur la question de comment vous avez, comment on a pu intégrer et nouer une forme d'alliance entre deux corps sociaux qui semblent opposés et comment dans le contre-projet ça s'est cristallisé, quelles ont été un peu les tensions aussi parce que on allie aussi des enjeux.
C'est pas si évident que ça la question de construire un récit commun. Typiquement. Moi, quand j'arrive dans cette dynamique-ci, donc il y a assez vite une volonté de dire en fait on se détourne pas de la question du travail et de la logistique, de dire ah juste c'est pas bien et c'est pas écolo et on le regarde en face. Comment est-ce qu'on fait pour penser une logistique qui soit soutenable? Et ça c'est un nœud, c'est un domaine qui est assez peu connu en termes d'expertise, les gens connaissent assez peu ça. Bon, il y a des experts mais on va dire que c'est pas le plus répandu dans le corps social. Le territoire de Gennevilliers en lui-même, c'est un territoire qui est coupé du reste de la ville. Il y a d'énormes infrastructures, il y a un tas de problèmes de pollution assez marqués. Et donc, dans les premiers ateliers, ressort un programme, et le programme est très hétérogène, en tout cas dans ses revendications. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont vraiment proches des revendications écologistes traditionnelles. Quoi. On va sauver les oiseaux de l'île à côté. Et de l'autre côté, on a des revendications qui sont très liées au lieu du travail, avec un horizon beaucoup plus proche. Ah, comment est-ce qu'on vient faire une charte sur les conditions d'employabilité des salariés sur ce site. Donc moi, je me retrouve un peu avec ça dans une forme de désarroi, quoi, à dire mais comment est-ce que je fais pour ne pas tokeniser les employés, comment je prends vraiment au sérieux leurs revendications et comment je les articule aux revendications écologistes. Et j'ai commencé à organiser des ateliers et très vite, il est ressorti que je leur ai montré justement, j'ai mis en discussion le projet de Karim que tu montrais plus tôt, devant un petit collectif quoi, où il y avait des ouvriers, des militants de la 69. Et bref, tout le monde commence à s'engueuler assez fort, notamment parce que l'imaginaire qui était transporté par le contre-projet de Karim, quoi, c'est un imaginaire qui est un peu flottant, aménagiste, c'est la vue du dessus, la revendication politique, c'est celle des vélos, le fonctionnement cycliste, c'est pas du tout ce qui match à l'endroit des ouvriers. Donc nous, il y a vraiment eu un gros travail de comment est-ce qu'on vient déconstruire les logiques de représentation, les imaginaires, comment est-ce qu'on prend le temps de s'engueuler un petit peu et de se mettre autour de la table. Sachant qu'en réalité, la sociologie très hybride de ça pose plein de questions. Qui est-ce qui peut se permettre spontanément de dire « tiens, je maîtrise mon avenir et donc je participe à des démarches de contre-projet » Ah, c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est pas distribué de manière homogène à l'intérieur du corps social. Donc bref, ça nous demande un petit peu d'articuler tout ça. Donc nous, on a vraiment fait un premier document qui était à dire on ralentit au maximum et on vient faire plutôt du collage en reprenant les codes situationnistes qui étaient présents dans les UL, quoi, plutôt de la lutte syndicale, et à dire bon, on ne fait pas de vue d'aménageur, on ne vient pas reprendre ce discours technique-là tout de suite, et on vient plutôt mettre en place une série de problèmes non résolus. Tiens, qu'est-ce que ce serait une logistique de l'approvisionnement, quoi. Okay, c'est super, on a dit ça, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a ? C'est-à-dire que quand bien même on transporte des palox et non plus des marchandises Amazon, eh ben, y a toujours l'usure du corps. Hein, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on remet le fret en place ? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'entreprise ? Peut-être toute la question du... Ce n'est pas tant un récit que de dire on essaye de créer un espace de prospective technique et économique qui repart des savoirs experts, des ouvriers, des habitants, etc. C'est-à-dire on prend le temps un petit peu de déplier ça, qui demande à amener les ouvriers ou les syndicats à produire des revendications à l'endroit d'un territoire, là où d'habitude ils se limitent au mur de l'entreprise, qui amène aussi les écologistes à aborder des espaces qui sont techniques, très anthropisés, et en fait, il ne peut pas y avoir juste de solutions simples de sanctuarisation. Voilà, c'est un petit peu ça ce qui se joue à l'intérieur de ça, de ce contre-projet, et peut-être moins la production d'une alternative technique que l'orchestration d'une arène de discussion dans laquelle se déploie du conflit, dans laquelle se résout des choses. Bah, ni le contre-récit, tout à l'heure tu parlais de contre-récit, pas exactement un contre-récit. Comment est-ce qu'on arrache ce territoire? Aujourd'hui, il a un devenir captif, quoi. Il va en avant et on se dit, bon, bah, si on veut fournir une alternative qui soit crédible, il faut repartir et prendre au sérieux les catégories des travailleurs, leurs enjeux à l'endroit. Et penser leur émancipation en même temps, quoi. On ne peut pas démanteler contre eux.
Déjà là, et la question qui m'intéresse pour la suite, c'est essayer de comprendre, voilà, tu l'as dit, on agrègue différentes revendications et de les porter à une échelle plus large que les cercles militants écologiques, pour essayer d'aller infléchir la course d'un projet qui est lancé avec des moyens colossaux, hein, parce que sans savoir que les moyens des collectifs en lutte, ils sont extrêmement réduits par rapport aux millions qui sont mis dans la communication des grands projets autoroutiers, mais des projets immobiliers. En fait, comment, avec ces contre-projets-là qui prennent des formes multiples, on arrive à toucher des gens, pas forcément les promoteurs directement, mais des riveraines et des gens qui ne sont pas forcément militants de base, mais qui, en voyant une image, en voyant un récit, un contre-récit, ou une forme un peu entre les deux, bah, peuvent se dire « Ah ouais, j'adhère plus à ce projet-là qu'à celui qui est proposé par les promoteurs et les puissants de ce monde, on va dire. » J'aimerais voilà, un peu vous interroger sur comment c'est perçu dans les différents cercles qui ne sont pas militants. De contre-projet, peut-être Milena revenir sur celui des Jardins Joyeux, alors qu'il n'a pas forcément gagné, on va dire. Il a été perçu presque par les différents acteurs du projet.
Concernant les Jardins Joyeux, c'était un peu compliqué parce qu'au sein du quartier Saint-Nicaise, il y avait des gens qui voyaient d'un très bon œil en fait, ce projet, parce qu'en fait, la valeur de leur projet allait forcément augmenter. Notamment, enfin voilà. Et il y avait quand même des habitants qui se sont agrégés des Jardins Joyeux, malgré voilà. Donc c'est sûr que face à des habitants qui n'ont pas forcément l'habitude de ce type de public, ça pouvait être compliqué. Mais il n'empêche qu'en faisant, en ouvrant le lieu, en le faisant découvrir, en créant une scène ouverte, une population qui a pu découvrir cet espace et voir la perte que ce serait d'avoir une sorte de poumon vert quand même dans un cadre extrêmement dense, surtout qu'on était post-Covid en fait, et il y avait presque une sorte d'aspiration à un espace où on pouvait enfin respirer en fait à Rouen, donc c'était très fort. Après, par rapport à ça, cette question-là, moi je l'ai surtout vue en fait au Bouillon Tard d'Avenir, donc là c'est 15, où en fait les militants des Bouillons, ils m'ont expliqué que en fait il y avait vraiment une stratégie qui était triple, quoi. C'est-à-dire il y avait vraiment une lutte politique, ouvrir le lieu, le faire découvrir, vraiment légitimer cet espace de ferme agricole et toutes les activités qu'on pouvait faire. Ensuite, il y avait la lutte en fait qui était liée aux élus, en fait d'aller à leur contact en fait et dire il faut que nous soutenez en fait par rapport au projet qu'on essaye de monter et faire, enfin empêcher la destruction. Et ensuite, le troisième point, c'était toute la lutte juridique, lancer des recours, si besoin, porter plainte. Et ça, en fait, les bouillons, cette là, ils l'ont ensuite mise à peu près partout dans d'autres luttes en fait, qu'ils ont pu mener sur le territoire. Mais même par rapport à ça, en fait, ce qui est compliqué dans ces espaces-là, même si c'est pas tout, mais ce qui est frappant, c'est à quel point en fait souvent les espaces qui sont attaqués, c'est souvent des espaces qui sont collectifs, c'est-à-dire là tu parles de la cantine, parce qu'on juge qu'ils sont pas nécessaires en fait. Et c'est pour ça par exemple que dans la littérature sur les communs urbains, on parle vraiment en fait au fur et à mesure même des siècles d'une décommunisation en fait de la cité, où petit à petit en fait tous des espaces de solidarité, de mutualisation en fait soit fait criminaliser, voire carrément, soit en fait détruit, parce qu'en fait, c'était une donnée négligeable. Ou alors, si on parle même de Notre-Dame-des-Landes, ou voilà, même les Jardins Joyeux, en fait, ces espaces-là sont vus comme des réserves foncières, vides, vacantes, en fait, sans intérêt, et en attente, en fait, de projets plus rentables, en fait. Et le problème de ces espaces-là, des espaces du commun, c'est de pouvoir légitimer, en fait, un droit coutumier qui n'existe pas, en fait, dans des documents administratifs, vraiment de l'autorité, et en fait voilà, de légitimer même tout ce qui est lié à des droits d'usage qui sont presque oraux en fait, qui sont liés vraiment à des droits d'usage qui n'existent pas voilà dans des projets urbains, et de pouvoir les légitimer. Et ça se fait notamment par ce qu'on appelle une autodescription du territoire. Je prends ce terme de Bruno Latour, bon, c'est pas le plus radicaux des philosophes, mais c'est intéressant parce qu'en fait dans ces textes, ils questionnent en fait les militants par rapport aux espaces dans lesquels en fait ils vont s'engager, en leur disant revenez sur vos besoins en fait, sur vos attachements en fait liés au territoire. De quoi vous avez besoin, de qui en fait vous allez pouvoir compter. Et en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que c'est exactement le travail en fait qui est élaboré par les militants, par les habitants. Et c'est pour ça qu'ils vont faire appel à des experts. Donc voilà, par d'une mais aussi par exemple de naturalistes, avec les naturalistes des terres au Jardin Joyeux, ils sont venus, il me semble qu'au Bouillon aussi, mais par exemple avec les Jardins Joyeux, donc les Gigi, le naturaliste qui est venu, bah il a pu voir que par exemple une des données négligeables en fait du projet immobilier, bah en fait c'était des espèces protégées, mais en fait qui n'avaient pas du tout été considérées, alors que si on avait vu que c'était en fait un habitat d'une espèce protégée qu'elle est détruite, bah en fait le projet immobilier ce serait pas fait en fait comme ça. C'est pareil en fait pour toute l'expertise patrimoniale. On avait un théâtre de poche, ce qui est quand même une pièce rare quand même dans l'espace urbain, il a été détruit parce qu'il a pas été considéré en fait. Tout l'enjeu en fait, c'est de pouvoir légitimer quelque chose en fait qui n'apparaît nulle part, quoi.
Ouais, et il y a la question de relégitimité, de redonner élargir la table des parties prenantes dans les projets urbains, quoi, de dire bah non, ces personnes-là, ces vivants-là sont aussi à considérer. Et pour revenir un peu à cette question-là de comment ça peut percoler dans des espaces non militants, je sais que une partie du travail d'appui, c'est quand même d'aller faire une forme de courroie de transmission entre les militants, pour que leurs revendications soient entendues. Et voilà, vous, sur le terrain, vous voyez que les mairies, les promoteurs immobiliers, une fois que vous arrivez, elles tendent un peu plus pareil qu'avant. Forcément comme ça que ça se passe.
Alors ça, c'est très variable. Déjà, nous, la démarche de décortiquer un peu les projets qui s'imposent aux habitants et de proposer des alternatives, c'est une démarche qui est très bien reçue dans les quartiers en général, qui est plutôt reçue très positivement, parce qu'en fait, c'est nous ce qu'on appelle l'expertise d'usage, du coup, qui est reconnue, quoi. Et en fait, les gens n'ont pas d'espace en fait, comme ceux qu'on propose quand on fait des ateliers pour construire justement les alternatives aux projets imposés. Ils n'ont pas en fait des espaces comme ça pour dire tel espace je le traverse comme ça sur les espaces publics, ou mon logement en fait ça la loggia j'en ai pas besoin, enfin des choses en fait de l'usage quotidien en fait des personnes tout d'un coup qui devient central en fait dans la constitution comme ça d'une dynamique collective de contre-projet. Donc ça, c'est une première chose. Après, les autorités locales ou nationales à qui on s'adresse, nous, quand on propose ce genre d'alternative, les réactions, elles peuvent être très variables. C'est pas du tout, c'est pas forcément la couleur politique qui va indiquer si c'est bien accueilli ou pas. Et c'est un peu un mystère en réalité pour nous, parce qu'il y a parfois des mairies, je pense à mairie de droite à Melun, où il y a eu des ateliers comme ça avec les habitants et habitantes et des propositions alternatives aux démolitions. Et finalement, le maire, en fait, a regardé le dossier, a dit « Ah bah ouais, en fait, c'est intéressant. » il a convoqué le collectif. On est venu avec le collectif, on a présenté la démarche. Ensuite, il s'est passé quelques temps, voilà, où entre eux, ils en ont discuté. Et un jour, une des personnes du collectif qui était encore dans le quartier est appelée par les services de la mairie. Et on lui dit, bah, écoutez, en fait, on va faire un avenant à la convention en rue. Donc, on va changer le projet en rue. Et on vous invite à venir à l'ANRU pour présenter les hypothèses que vous aviez travaillées avec appui. Et voilà. Et donc là, c'est un exemple. Alors, on n'en a pas beaucoup des exemples comme ça. Mais parfois, ça peut fonctionner. Voilà. Mais on le garde. Et d'ailleurs, j'avais apporté le petit fascicule qui avait été présenté, voilà, à la mairie, qui consiste pas forcément à, si vous voulez regarder, qui consiste pas forcément à faire un plan du quartier en disant on va mettre ça là et tout ça. Et c'est plutôt repartir voilà, des usages des gens, donner un peu des pistes comme ça de comment pourraient être repris les espaces publics, les logements dans le quartier. Et on a quelques cas à Poissy, à la Coudrée, dont je vous parlais au tout début, au fondement d'appui. En fait, c'est un cas aussi où finalement, à force de négociations et de... Alors le contre-projet, c'est pas, voilà, c'est pas tout seul. Ça va avec d'autres formes de mobilisation aussi, dans le cas de Poissy, la Coudrée. Et finalement, la municipalité a aussi accepté de revoir sa copie et de ne pas démolir tout le quartier comme c'était prévu, voilà, et d'entendre du coup les revendications habitantes. Donc parfois, ça peut fonctionner. D'autres fois, c'est plus compliqué, comme au foyer Branly ou à Montreuil en ce moment, au Clos Français, voilà, dans des quartiers où là, on a du mal encore à imposer un peu cette vision-là des premiers concernés, mais on ne sait pas quoi. Mais...
du foyer Moïse a fait changer la donne parce qu'on dit c'est gagné foyer Moïse entre gros guillemets. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur,
ouais, sur, oui, ça, donc ça n'a pas été gagné, père, il s'est déplacé Pagne, hein, Pagne. C'est-à-dire que sa préférence allait vers la réhabilitation. Il a félicité le travail, en effet. Diagnostic, d'expertise. Voilà, encore une fois, c'est aussi parce que se joue, enfin, il ne faut pas pleurer, quelque chose qui est de l'ordre de la respectabilité du notable, quoi. Enfin, ou ne pas travailler en agence, ne pas en avoir, ne travailler qu'à échelle inconnue, je suis quand même architecte. On ne lui parle pas comme, comme. Voilà, donc il y a une sorte, je pense qu'il y a ça qui joue assez basiquement, c'est des notables se déplacent. Même si on n'a pas envie de l'être, on l'est, et ça, il faut l'assumer, malheureusement. Donc, clairement, ça joue. Et après, normalement, je me suis promis, on s'est promis que normalement, je ne dois pas parler du foyer sans qu'il y ait un résident du foyer, mais bon, Ramadan et Roche, non, je ne peux pas le faire. Voilà, je crois que c'est surtout là où ça a appuyé, et le fait qu'en effet, on était porteur de quelques outils qui mettaient aussi en péril le. Je reviens toujours sur le récit, hein, c'est une idée fixe, certainement. Mais aussi parce que ce qu'on a en face de nous, et c'est aussi sur la question de la lutte. À savoir qui lutte, quoi. Je pense qu'en effet, il y a une vraie lutte qui est menée par les pouvoirs publics pour détruire les foyers. Eux, ils luttent. Finalement, l'espèce de position de menhir des résidents n'est pas une position de lutte, elle est une position de résistance, pour ainsi dire, passive qu'on accompagne à un moment donné. Et finalement, ça paye. Mais ça paye aussi parce que la fabrique du récit replace aussi la lutte qui est en face dans le cadre d'un récit officiel. Et donc, avec toute la fragilité qu'a un récit officiel. Parce que ce qu'ils font quand on fait Green Dock, on fait un récit bien plus qu'en définitive un espace de stockage de flux, etc. Si on fait croire à un certain type d'économie qui sera portée par l'axe Seine, et pas d'ailleurs tout logistique, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est à cet endroit-là peut-être que l'on est pertinent. Et après, parce que on connaît des gens, quoi. Voilà. Donc, on peut faire venir des fondations qui viennent, qui ont aussi d'autres types d'expertise et qui peuvent apporter quelque chose qui s'oppose quand on perçoit ces lieux-là. Je pense que voilà, c'est là où on est. Après, on est meilleur quand on fait des films. Et non, après, voilà, j'espère qu'il sera reconnu architecture contemporaine remarquable. J'espère aussi travailler avec la Fabrique des Patrimoines à une reconnaissance de la cuisine comme patrimoine immatériel. Enfin, voilà, c'est. Et en effet, toute la question des communs. Alors, la chance qu'on a eue aussi, on a eu aussi beaucoup de chance sur Moïse. C'est une histoire très communale. Et c'est en plus la question des communs, elle ne peut pas être niée à partir du moment où on fouille dans les sources historiques. Et l'architecte définit clairement, prévoit des espaces dits excédentaires pour la vie collective, qui inscrit vraiment une mosquée et pas une salle de prière au plan. Ce qui en fait la deuxième mosquée de France, quand même. au plan du foyer, qui crée des ateliers de ferronnerie, enfin de une fonderie, faire des bijoux, des ateliers de couture, etc. Et tout ça, c'est noté, ça fait partie du... Et donc on voit bien qu'en définitive, c'est le travail des gestionnaires affiliés aujourd'hui à la Caisse des dépôts et consignations. Ratali, la Caisse des dépôts, qui ont détricoté tout ce travail-là en rendant illégal, en définitive, l'utilisation de ces lieux-là en prétendant que c'était du commerce illégal. Ces choses-là. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a de plus gros enjeux, en effet, sur un projet comme l'Axe Seine, parce que l'Axe Seine, c'est très compliqué à comprendre. Enfin, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est que là, on intervient avant, donc il n'y a pas ce moment de cristallisation. Enfin, si, il y a des projets autour desquels on cristallise. Donc, on avait organisé avec Roman une rencontre du contre, où on avait essayé de faire se rencontrer justement des gens qui ont des problèmes, en définitive, avec ce projet-là, sans entendre forcément que ça appartenait à ce nébuleuse de ce projet. Et ça, on a du mal, en effet, à trouver des... Parce qu'en face, eux-mêmes, renouveler leur dispositif. Aujourd'hui, piano, ça leadership capillaire. En fait, le politique n'est plus quelqu'un qui décide de mettre ça là, ça là, ça là, ça là. Il lance une grande avec ce la métropolisation d'un fleuve. Et il invite plein de gens à intervenir et à dire, ah ben moi, ça m'intéresse, je ferais bien un truc comme ça. Laisse le... Ça, en effet, je pense qu'on risque d'épuiser à n'être que dans le contre-projet, à attendre que forme apparaissent au moment de la... Et c'est comment on intervient.
Et est-ce qu'une des pistes, parce qu'on l'a vu du coup, beaucoup de contre-projets émergent et depuis plusieurs années aussi sur différents territoires, il n'y a pas un enjeu voilà, à devancer le projet voilà, et à faire aussi une forme de série de contre-projets qui se relient entre eux. Voilà, on est à Rouen ici, il y a Green Dock, de l'autre côté, il y a la lutte contre le canal Seine-Nord-Europe avec un des plus grands chantiers qui va être fait en France. C'est un désert vert, la Picardie. On parle de contradictoire avec le projet Axe Seine et en même temps qui renforce aussi Aropa d'une autre manière. Aujourd'hui, il y a aussi un contre-projet qui se fait sur le canal Seine-Nord-Europe qui a vocation à contourner le Havre et à ouvrir Paris avec des méga-péniches. Elle passerait par Anvers et Rotterdam. Il y a un contre-projet. Bah, comment on réaffecte les 3000 hectares qui vont être artificiels? 3000 hectares à titre de ration, c'est 9 fois la 69. Jamais réalisé. Et connu. Et de lutter. Bien que mal. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, nous, dans censé, avoir envie de changer peut-être naïvement le monde, de se mettre ensemble et créer un énorme récit ou un énorme projet qui arrive avant même le projet pour dire nos forces qui sont partiellement percées, mais forte et essayer de renverser les manières de faire. Et ça m'intéresse aussi au-delà de l'échelle géographique. On amène des gens qui ne sont pas forcément dans nos cercles. Je pense que c'est aussi peut-être une des forces d'appui d'aller faire le lien entre le milieu, on va dire, académique, également le réel, entre gros guillemets, dans le réel du territoire des luttes. Je peux un peu revenir sur ça, sur ce pont que fait appui PFE.
Oui, donc nous, en fait, on travaille beaucoup, c'est un peu évoqué, mais avec l'école d'architecture de Paris-la-Villette, avec qui, en fait, on a, il y a quelques années, donc c'était il y a maintenant 9 ans, il y a deux enseignants-enseignantes qui étaient proches d'appui et qui ont proposé en fait, de créer un studio de PFE, donc comme une classe, enfin, du coup, comme une cour de TD, ou, enfin, voilà, mais pour, les PFE, pour le projet de fin d'études en architecture. Donc, c'est à peu près 20 étudiantes et étudiants qui, chaque année, du coup, en début de semestre, en fait, nous, on leur présente en fait, les différents collectifs qui se mobilisent en ce moment et qu'on accompagne, avec, en mettant un peu en avant les enjeux que les collectifs travaillent et du coup, en leur expliquant un peu des pistes de projets que les collectifs voudraient travailler. Et ensuite, les étudiants et étudiantes se positionnent ou pas, selon leur choix, en fait, sur ces terrains-là. Et ensuite, naît une collaboration pendant tout un semestre. Donc, c'est aussi l'avantage des PFE, c'est que c'est un semestre pendant lequel les étudiantes et étudiants ont vraiment du temps à consacrer au PFE. Donc, ils peuvent aller sur le terrain, rencontrer les gens, prendre le temps de la rencontre, de faire des ateliers, etc. Et en fait, ces diplômes, après, pour nous, c'est une matière pour les collectifs, en fait, qui peut être réutilisée pour ensuite travailler des contre-projets et des projets alternatifs. Et voilà, donc j'avais apporté quelques exemples comme ça de synthèse. Je peux vous en faire passer une autre, un récit de 2 années de mobilisation des habitants et habitantes de l'ANOU qui présente un peu les différents travaux qui ont été faits par le collectif avec l'aide d'étudiantes et d'étudiants en architecture et qui permet de constituer des documents ensuite d'interpellation quoi, avec lesquels on va chercher les acteurs locaux. Voilà. Et pour reboucler un peu avec la question d'avant, mais en fait, je trouvais ça intéressant, c'est que on a beaucoup fait à appui les alternatives aux démolitions de logements sociaux, et notamment dans le quartier de l'Almagar à Roubaix, où il y a une lutte depuis pas mal d'années maintenant. Et du coup, là, les municipales vont aussi changer la donne à Roubaix, puisque la mairie de droite est tombée et que c'est la liste LFI qui a pris la mairie, qui va prendre sûrement la mairie au deuxième tour, mais qui est à 45%, enfin bref. Mais en tout cas, cette mobilisation à Roubaix, ce qui est intéressant, c'est que les différents documents qu'on a produits, et là j'en ai apporté 2, en fait, on a présenté ça aux acteurs locaux et au fur et à mesure de la mobilisation, et en fait, en jouant aussi sur les divisions internes au camp d'en face, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la municipalité qui portait le projet, et finalement, la préfecture, à force de mettre la préfecture en copie et à force de lui adresser nos documents, en fait, la préfecture a contacté le collectif directement en lui disant bah, « en fait, ça nous intéresse, votre point de vue, on veut vous rencontrer ». Et de là, sont nées plusieurs rencontres avec le préfet ou la préfète qui ont changé entre-temps, mais de discussions avec le collectif et finalement qui a plutôt convaincu la préfecture qui, à un moment donné, a mis un coup d'arrêt aux démolitions, donc en fait à arrêter les chantiers de démolition en attendant les municipales. Et du coup, là, c'est un cas intéressant de jouer aussi sur les divisions internes, puisque parfois l'État et les municipalités ne sont pas toujours alignés. Et en fait, ça peut être intéressant aussi d'interpeller une diversité d'acteurs. C'est pour ça qu'on met toujours en copie l'État sous toutes ses formes, donc la préfecture, l'Agence nationale de rénovation urbaine, la CILPI dans le cadre du foyer Branly.
Pour finir, avant d'ouvrir un peu le temps de discussion et les échanges avec la salle, peut-être Xavier, revenir sur Green Dog. Du coup, on a eu des nouvelles plutôt positives et de la lutte. Quoi l'avenir du contre-projet ? Est-ce qu'il va se constituer dans une phase un peu d'attente ?
Ouais, je pense que je vais revenir même un peu sur tes histoires de récits et où circulent les récits. J'ai vraiment le sentiment que quand on pense cette question de contre-projet, c'est à qui on s'adresse. Et en général, on s'adresse à plein de personnes différentes. En tout cas, dans le cas de Green Dog, il y a plusieurs publics qui sont quand même assez différenciés qui rentrent en jeu. Il y a une partie où on peut s'adresser aux institutions. Et donc, on rentre dans un discours de contre-expertise, on peut s'adresser au public. Et dans ce cas, on essaie de défaire le discours qui est porté par les institutions. On peut s'adresser aux membres en interne de la coalition. On voit bien que c'est assez trouble tout ça. Dans le cas de Green Dog, par exemple, il y a la question politique nationale qui joue assez fort. C'est-à-dire que c'est un espace où tu as un travail effectif depuis une lutte de terrain syndicale écologiste qui se rejoint depuis 3 ans et qui travaille ensemble. Et là, d'un coup, tu te dis, ah, bah, tiens, le public qui est concerné, c'est non plus seulement la question du territoire et des riverains directement, mais il y a aussi d'autres enjeux qui vont circuler dans d'autres cercles bureaucratiques, etc. Donc nous, on a plutôt fait le choix d'opter pour des formes de projetation différenciées en fonction des publics. C'est-à-dire que les camarades travailleurs qui sont pris dans la lutte au quotidien parce qu'ils ont la répression syndicale, etc., on va être sur des formes d'action et un horizon temporel qui est adapté à leurs enjeux. D'autres camarades, comme la scène Nord-Europe, on va essayer de se dire on partage les enjeux des péniches, des flux et de la terraformation du truc. Là, en effet, ça ouvre un temps de réflexion qui est beaucoup plus éloigné et qui s'adapte aussi à un autre public. On est plutôt sur une stratégie de se dire le contre-projet permet d'articuler des formes de projetation, des formes de récit avec un peu de souplesse dans leurs incohérences ou non à cet endroit-ci. Et typiquement, quand on parle de où circulent les différents argumentaires, Green Dog, récemment, donc il y a le maire de Gennevilliers qui a fait le choix de ne pas signer le permis de construire de Green Dog. Les raisons pour ça, c'est compliqué d'avoir la distribution claire, mais il y a plusieurs choses qui jouent de manière assez sûre. Lui, il nomme le refus de la MRAE, qui est donc une institution étatique consultative, qui a dit écologiquement, ce projet, il ne le va pas. Ensuite, il y a eu l'enquête publique, où là, il y a eu une grosse mobilisation vraiment de base de la lutte, quoi. Donc, vraiment, les contre-projets sont toujours pris, vraiment, il faut les penser dans l'articulation de tout un tas de répertoires d'action. Et donc, rapport de l'enquête publique négative. Et peut-être que le contre-projet qui circule là-dedans, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui est joué au cœur du truc. Je dirais plutôt que c'est les élections qui sont dans 3 jours et qu'il sentait le vent tourner. Et donc, il a fini par laisser le truc. Donc ça crée une forme d'appel d'air. Là, aujourd'hui, on se retrouve justement dans une situation qui est plus assez confortable pour rebondir sur ce qui était dit avant. On arrive toujours au moment où ça démolit et où il y a une forme de sentiment d'urgence qui permet d'agréger de la mobilisation. Là, on arrive à un moment donné où le permis est tombé. Alors, ils ont déjà démoli le site, ils ne vont pas lâcher le morceau comme ça. Mais ça nous laisse des mois pour faire un petit peu un travail un peu de fond sur, tiens, qu'est-ce qui se joue? Comment on reprend la main sur ce territoire-ci? Comment est-ce qu'on arrive à sanctuariser les berges qui sont proches de la zone Natura 2000? Bon, ça nous laisse un petit peu de temps, quoi. Et donc, là, aujourd'hui, le collectif, moi, je ne savais pas exactement comment... Est-ce qu'il et elle voulaient se positionner sur la poursuite du contre-projet? Je me dis, mais si ça se trouve, il n'y a plus de raison d'être désormais, qu'il n'y a plus de lutte immédiate. Et pour autant, eux, ils sont à défendre la logique de dire, mais en fait, ce territoire-ci, les problèmes qu'on a soulevés, c'est-à-dire la cohabitation très proche entre des activités industrielles nocives pour l'environnement et une zone Natura 2000 qu'on ne veut pas sanctuariser parce qu'il y a des enjeux de racisme environnemental sur le territoire, ça ne va pas disparaître. Les enjeux de se rapprocher, lutte écologique et lutte du travail, ça ne va pas disparaître. Les problèmes de la logistique, surtout l'axe Seine, ça ne va pas disparaître. Et donc, eux, ils souhaitent maintenir la démarche qui est mise en place et s'en servir comme justement un espace de rencontre et de coalition. Et donc, on a Appui qui va nous aider sur le semestre prochain sur une partie du territoire. Donc là, plutôt, je pense que ça va plutôt s'adresser aux riverains et donc ça va vraiment être lié à cette frange de terrain qui est le long de la Seine et à se dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est que cet espace? Est-ce qu'il devient un espace public? Qu'est-ce qu'il devient? Donc là, vraiment, plutôt un travail de concertation assez proche des outils d'appui. Moi, je me suis beaucoup inspiré de leur méthodologie là-dessus, sur comment est-ce qu'on va y faire des choses. Il y en a une autre partie où on va essayer de faire le lien avec Seine Nord Europe sur les questions de fret fluvial. D'autres parties qui vont plutôt être liées à la reprise ouvrière, où on va faire venir les camarades de GKN. Où, donc là, ça va plutôt être un peu académique. Mais essayer de dire, bon, bah, comment est-ce qu'on vient prendre exemple sur des cas qui ont vraiment existé dans la reprise ouvrière d'un territoire. Donc on voit bien qu'il y a une forme de démultiplication, quoi, des arènes qui se jouent là à l'endroit de ça. Et qu'il y a de moins en moins, au final, sur la proposition d'une alternative stable, mais plutôt sur le travail de fond, quoi. Ça se trouve, on fait de l'idéation capillaire, là. C'était quoi le terme? Du leadership capillaire. Peut-être qu'on fait ça sans le savoir, comme Monsieur Jourdain.
Déjà une heure qu'on parle et je pense que c'est le moment aussi de vous laisser la parole, vous qui nous écoutez, qui avez sans doute des questions, sans doute aussi des envies de partager des réflexions. Peut-être vous avez aussi participé à des contre-projets. Il y a un micro qui circule dans la salle. N'hésitez pas à vous en saisir.
Pour tous ces témoignages, moi j'ai une question. Comment ça se lance?
Il y a de l'argent ici.
Sur les questions financières. Mais a priori, c'est les non-fonctionnements qui financent, en tout cas pour notre part. Et aussi des... je te laisse.
Oui. Pour le projet, par exemple, au foyer Moïse, on est soutenu par la Fondation pour le logement. Et puis également par la DRAC aussi. L'État sur la partie patrimoniale, en fait. Voilà. C'est pas des gros fonds. Le reste, c'est notre capacité bénévole en plus, ouais, sous-payé, quoi, qui permet de faire d'être actif, quoi. Il y a ça, et puis après, sur le projet Axe Seine, il y a aussi la Fondation pour le logement, la Fondation Carasso, sur leur programme Art citoyen. Et puis, on oublie et également la DRAC. Voilà, donc l'État encore.
Peut-être juste pour compléter, pardon, mais sur le foyer Moïse, pas tant les financements liés au projet d'échelle inconnue, mais presque sur le contre-projet en tant que tel. Il y a aussi un gros travail de concertation entre les résidents. Qui sont prêts quand même à mettre sur la table une certaine somme Voilà, il y a aussi des réunions. Bah, Mariana l'a un peu dit sur les espaces collectifs des foyers avec des réunions de village où chaque village est plus ou moins officiellement constitué en association, mais chaque village a aussi ses propres. À Moïse, il y a beaucoup de réunions aussi pour savoir si certains villages de la Mauritanie veulent participer au projet de réhabilitation. Et aussi en lien avec la Fondation pour le logement, on travaille avec Plateau Urbain sur les questions de gouvernance et de gestion. Et eux, ils nous apprennent aussi, ils apportent leurs compétences sur comment on monte un projet, comment on fait pour que le projet soit rentable. Qu'il y a un équilibre financier, quelles sont les subventions par ailleurs qui pourraient être demandées. Enfin voilà, c'était ce point, mais là c'est très spécifique au foyer Moïse.
Pour appui, y a un peu les mêmes qu'on retrouve, hein, la Fondation pour le logement. Nous, on est financé par la Fondation pour le logement, la Fondation de France et l'Agence nationale de cohésion des territoires, donc l'ANCT. La main gauche, on va dire, de l'État pour ce qui concerne les quartiers populaires. Et c'est des financements qui nous permettent d'intervenir dans des quartiers en fait en étant indépendant, enfin de pas avoir de financement de collectivité qui nous met dans une situation instable. Là, ça nous permet de contrer des projets peut-être tout à fait libre.
Moi, je suis chercheur, donc j'ai une bourse du ministère et c'est un peu le deal, quoi. C'est une manière de me rapporter au terrain non extractif. Moi, je viens tirer des résultats de recherche, mais je leur donne aussi tout un tas de temps et de mettre la main à la pâte pour eux à leur endroit. Le deal avec mon terrain. Et du coup, c'est le ministère de l'Éducation.
Personne, je n'étais pas financée pour ma thèse, donc... mais sinon, par rapport au financement des contre-projets, je trouve que c'est intéressant, par exemple, de parler des bouillons, enfin, du terme des bouillons, puisque eux, inspirés notamment parce que certains avaient connu l'Arzac, quand ils ont tenté, en fait, avec des promesses d'achat, avec un épargne solidaire, en fait, de racheter collectivement, en fait, cette parcelle, grâce notamment avec Terre de Liens et sa foncière. Mais tout le problème, en fait, même s'il y a eu ce problème, bio, même culturel en fait au sein de cette ferme avec Terre de Liens qui était là, les gens en fait qui se sont vraiment mobilisés avec toutes les promesses d'achat. Le problème c'est que la SAFER n'a pas fait, on va dire, son travail, quoi, dans le sens où elle n'a pas exercé son droit de préemption, dans le sens où elle n'a pas regardé en fait les deux projets, celui des bouillons et celui en fait de leur concurrent, et ce qui fait que leur concurrent a passé un deal avec la personne qui possédait en fait cette parcelle, et c'est passé entre les mains en fait. Même quand en fait on a les moyens financiers, on réussit à opposer une forme de propriété collective un peu contemporaine, on n'est même pas sûr en fait de pouvoir en fait.
Peut-être pour compléter aussi et faire un petit appel, parce que peut-être compris, moi je suis engagé du côté du canal Seine Europe aussi pour un travail d'alternative. On a toujours besoin de monde, en fait. Il n'y a pas besoin d'être architecte, ingénieur, urbaniste, ou même d'habiter forcément le lieu qui est concerné. Dans les luttes, en général, on a besoin de tout le monde pour participer, acter, faire à manger quand on fait une manifestation, pour en parler. En fait, tous les savoirs dans une lutte sont importants, et on a tous des compétences, des qualités à faire valoir dans des luttes, et dans les contre-projets, même si on n'a pas forcément dans la légitimité de le produire. Et je pense que c'est vraiment hyper important de rappeler que la plupart des contre-projets viennent aussi bénévolat, pas forcément quelque chose de mauvais, parce que c'est de donner du temps et de réapproprier les outils, et de faire société, émancipation. Voilà. Il y a 600 luttes locales en France, forcément, chez vous, à venir contribuer.
Moi, je voulais vous demander je me questionne par rapport au contre-projet. Qui a la propriété du sol à l'origine? Qui est la personne, donc promoteur et autres, qui fait le projet? Parce que l'exemple de Caen, ça appartenait à la ville, la place. Le promoteur qui allait faire le projet, n'en parlons pas. Les arbres ont quand même été abattus entre deux, puis après, vous avez gagné. Jardin Joyeux, privé, hein, perdu. Donc voilà. Donc moi, je vous questionne sur à qui appartient le sol. Est-ce que les projets qui sont privés par un privé sont tous voués à perdre ? C'est un exemple de un cas gagné. Comment vous avez fait ? Voilà.
Que, par exemple, la grosse différence entre les foyers avec lesquels on travaille, c'est que le foyer Moïse, le foncier appartient encore à l'office HLM municipal. Donc on n'est pas dans leur cas où le foncier appartient déjà à Adoma, ancien Sonacotra, aujourd'hui fédéré avec d'autres gestionnaires comme l'AFTAM en caisse des dépôts Habitat. Eux, ils ne lâcheront pas, quoi, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de se faire, c'est exactement ce que se fait SNCF Immobilier, c'est-à-dire un pactole foncier qui va peser en définitive politiquement aussi, parce que ça devient aussi des acteurs politiques, ces gens-là. Donc, c'est plus, vous êtes dans une situation beaucoup plus tendue et compliquée que la nôtre. Et qu'on gagne. Non, on n'en a pas.
Dans le cas de la lutte contre les entrepôts Green Dock, il y a Aropaport, qui est donc une entité para-étatique qui est gestionnaire de plusieurs ports au niveau national, donc qui est un acteur un peu ambigu, parce qu'il est censé être le propriétaire foncier. Et derrière, lui, il va faire appel à des promoteurs privés. Donc c'est Goodman. Donc là, on est vraiment sur des acteurs capitalistiques de la promotion traditionnelle, quoi. Là-dessus. Mais ce qui rentre en jeu, par contre, c'est la percussion entre cette échelle-ci et l'échelle institutionnelle locale. Là, en fait, la poursuite en avant du projet est bloquée parce que le permis de construire est conditionné par l'approbation du maire de Gennevilliers. Le maire de Gennevilliers, lui, il est plutôt à gauche et n'a pas d'intérêt électoral là à valider ce projet-ci. Et donc, du coup, là, il y a une espèce de hiatus, quoi, qui se crée entre différents échelons qui, normalement, devraient... C'est très souvent hein, qu'ils viennent faire les ports ou les entrepôts en périphérie des villes. Ils le mettent à la bordure de Gennevilliers, loin des voisins, etc. Une espèce de manière d'endormir un peu la population. Et là, ça n'a pas marché pour eux.
Politique réelle, là je pense qu'on a du souci à se faire parce que c'est pas sûr que les politiques locaux dans 10 ans aient encore leur mot à dire. Ça sera probablement géré par cette immense co-organisation de l'ensemble des EPCI, de l'entente de l'Axe Seine qui portera, j'espère, un autre nom parce que c'est pas très heureux l'entente de l'Axe, mais voilà, qui décidera si ça se fait ou si ça se fait pas, quoi.
Je peux aussi ajouter ou en question, c'est AROPA par rapport aux questions politiques, de réindustrialisation. De l'Axe Seine, il y a quand même beaucoup d'argent public dans des gros privés comme ça. C'est peut-être un peu plus facile de... Enfin, un peu plus facile de tester des permis de construire, mais quand c'est des... On parle des Jardins Joyeux, là. Il y a un petit qui vend un peu. Il n'y a pas d'argent public, il y a un permis de construire déposé, ancien PLU, donc il est accepté 4 jours avant le changement de PLU par son copain du préfet avec sûrement un chèque dans la poche. Et voilà, puis on a perdu. Il n'y a pas de... Légalement, bah, ils avaient leurs droits, donc...
Pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit, par rapport au Jardin Joyeux, quoi, donc...
parce que les communs, c'est le droit coutumier. Et normalement, c'est le droit coutumier. Et comment, en fait, le privé peut s'attribuer le commun ? Enfin, par quel artifice ils peuvent s'attribuer le commun ?
Alors, ça peut se faire de différentes façons. Dans l'histoire, si je remonte un peu, déjà, c'est d'imposer en fait le concept même de propriété à des peuples qui ne le conceptualisent même pas comme tel. Je pense que dans tout ce qui a été des processus de colonisation, par exemple, aux États-Unis, en Amérique, ils ont réussi en fait à désolidariser en fait des communautés entre elles en fait en donnant par exemple la nationalité américaine des droits en fait à des natifs américains si en fait ils se désolidarisaient en fait des communautés mais comme ça ils pouvaient accéder à la propriété et comme ça ils ont pu petit à petit en fait déconsolider en fait des groupes par exemple même par rapport par exemple aux Kanaks. Ils ont un rapport en fait à leur identité avec le sol, avec la terre en fait, et toute notre imagerie en fait, toute notre conception moderne de la propriété en fait, on a l'impression que tout le monde en fait la partage, mais en fait c'est vraiment faux quoi. C'est pareil pour par exemple les Berbères en fait du Maghreb. C'est aussi un moyen par exemple pour l'État marocain en fait de petit à petit en fait coloniser des terres justement où c'est le droit coutumier en fait qui prévaut et comme ça en fait de prendre petit à petit en fait des terres en fait justement des peuples. Mais après dans ce qui nous intéresse par rapport en France comment dire c'est un peu en fait les enclosures elles sont vraiment hyper multiples et un peu perverses parce qu'on peut imaginer que en fait, s'octroyer des communs, c'est juste même un rapport voilà, par rapport à la propriété, par rapport au sol. Mais tout simplement, en fait, un projet alternatif qui se monte, bah, petit à petit, en fait, on va l'institutionnaliser. On va lui ajouter des dynamiques beaucoup plus marchandes et mercantiles. On va en fait siphonner de l'intérieur en fait, tout ce qui faisait en fait, tout le noyau contestataire d'un collectif. Donc, lui, il part en... Donc ça part en scission totale, en conflit et de ce que j'appelle des dynamiques en fait anticommunes. En fait, ça se détruit de l'intérieur et comme ça, on peut récupérer petit à petit des espaces alternatifs. Là, ça se passe dans des espaces, voilà, des tiers lieux. Enfin, voilà, ça peut être voilà, des tiers-lieux, des espaces alternatifs, mais aussi dans l'agriculture urbaine. Maintenant, ça a été totalement greenwashé, par exemple. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais dans la plupart des cas, c'est de ne pas reconnaître en fait, les droits d'usage qui sont à l'œuvre. Et de toute manière, les communs, le mouvement des communs, en fait, il est aussi issu justement du mouvement d'enclosure, en fait, du 17e avec justement comment on a criminalisé toutes des pratiques paysannes communautaires, on a imposé en fait toutes des haies, toutes des propriétés en fait qui étaient liées justement à des seigneurs, ça a jeté sur les routes en fait plein de paysans et c'est comme ça petit à petit en fait qu'on a imposé un mode de pensée et un mode aussi de gestion qui n'était plus du tout collectif mais purement individualiste en fait. Voilà, j'ai...
Vous disiez tout à l'heure que vous arriviez assez tard, tardivement sur les projets. Est-ce que moyen de prévenir un endroit qui est en dessous des jardins joyeux, le monastère des Bénédictines. Qui représente un lieu énorme, avec sûrement un patrimoine très intéressant. Et ça pourrait être un très bon move d'arriver avant que qui que ce soit se dise « Oh tiens, il y a quelques milliers de mètres carrés là à récupérer pour faire un R+3 à 8000 balles le mètre carré. » quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de commencer quelque chose là-dessus ?
Je sais pas, est-ce que ça appartient encore à l'évêché ou pas ? Voilà, parce que déjà le premier truc c'est ça quand même à Rouen, on est quand même sur une espèce de mariage incestueux entre des promoteurs, l'évêché, les politiques, etc. Donc c'est là déjà où il faut commencer, y compris peut-être à demander des comptes à ce grand propriétaire foncier qui est l'évêché à l'échelle d'une ville, qu'on en prenne conscience déjà de l'étendue de la propriété foncière religieuse sur Rouen, enfin qui est quand même énorme. Quelques vues aériennes nous donnent aussi quelques vues sur des piscines, bizarrement, dans ces espaces-là. Ils ont le droit de se baigner, dans le fond. Et peut-être, oui, d'essayer déjà de cartographier ça, demander des comptes, savoir ce qu'ils comptent en faire, pourquoi. C'est là où on peut intervenir avant. En définitive, dans une démarche qui est politique au sens premier du terme, c'est-à-dire s'intéresser aussi à comment va évoluer le terrain en ville, etc. Qui va l'occuper ensuite Les cartos quand vous voulez.
Moi, je dirais que c'est quand même pas si évident que ça en réalité, ce truc-ci, mais parce qu'il y a plein d'espaces où se pose la question de la contre-prospective, quoi, de se dire mais comment justement on n'arrive pas en dernier avec trois coups de retard. Mais en fait, ça voudrait dire que on arrive à se mobiliser avec trois coups d'avance partout, à beaucoup d'endroits en fait. Y a un vrai enjeu un peu de fond là-dessus, mais c'est quand même assez compliqué. Comme on disait, hein, dans un contre-projet, moi, c'est vrai que là, il faut que je souligne, on est plusieurs en fait là-dedans. Il y a beaucoup de militants qui sont pris dans ces travaux aussi. Pour que les travaux marchent, il faut quand même qu'il y ait une controverse un petit peu pour que les choses circulent. Et s'il y a juste un potentiel de venir encore un petit peu faible, machin, c'est pas si évident de mobiliser les gens et dire bah, tiens, tu vas prendre 2 heures de ton dimanche. Chaque semaine pour venir travailler sur produire une contre-carto très lointaine sur un territoire qui peut-être pas le tien. Bah, je trouve que c'est pas si évident que ça. La question s'est posée à plein de moments de ma vie et c'était pas gagnant.
Ah oui, aussi sans doute. Oui, il faudra que ça fonctionne, ça. Là, on sait que ça. Mais en tout cas, oui, devenir un peu. Voilà, un peu. Alertes sur ces questions-là, oui, c'est important, ça faut le faire collectivement. Ouais. Et oui, on peut organiser des choses aussi.
En attendant, peut-être une dernière question à chantier commun. De faire du commun et de se projeter ensemble vers le futur. On a toujours une petite question rituelle pour clôturer les rencontres, qui est en fait de demander à chacune et chacun des intervenants quel serait, selon vous, le chantier commun à initier dès maintenant pour place à demain, de la façon possible et durable. Faire un petit tour de table assez simple, pas forcément des conférences de 15 minutes parce que c'est à 20h40, mais avoir recueillir un peu votre chantier commun.
On revient aux sources. Je suis entré, un des livres qui m'avait changé perspective en tant qu'étudiant en archi, c'était le long poème sur Berlin d'Armand Gatti, qui s'appelle Les personnages de théâtre meurent dans la rue. Et je suis en train de le relire en ce moment. Il y avait un truc que je n'avais pas noté la première fois, qui était, ça dit à peu près ça, c'est notre guerre civile rejoue tous les jours le combat de l'échelle contre le ciel.
Non, mais peut-être vous parler de nous en fait à Appui, on réfléchit un peu là à des formes justement de faire circuler en fait déjà un peu plus des projets alternatifs qui ont existé et à faire vivre la mémoire un peu des luttes qu'on a pu accompagner depuis 2012, puisque l'association existe depuis 2012. Et donc on commence à se lancer un peu dans voilà de documenter en fait certaines mobilisations, mais dans l'idée de les faire vivre. Ailleurs, en fait, aussi, de les faire circuler dans d'autres quartiers où il pourrait y avoir des projets de ce type-là. Donc, éventuellement, pourquoi pas, pour anticiper des projets de rénovation urbaine à venir. Mais du coup, pour faire circuler voilà, le fait que c'est possible en fait, de se mobiliser, d'avoir des outils pour se mobiliser contre ce type de projet. Et qu'en fait, on peut aussi gagner dans certains cas. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de commencer par deux cas où on a un peu gagné, c'est-à-dire à Melun et à Poissy, voilà, les deux cas dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Dans la même idée, je trouve que ce qui est important actuellement, même dans les thèses d'ailleurs qui sont faites actuellement, c'est un peu d'une reprise des savoirs, en fait, de se réapproprier tous des savoirs, mais aussi des récits et des histoires en fait, qui tendent à être effacés. C'est-à-dire que, par exemple, concernant les luttes urbaines ou rurales, c'est-à-dire que Notre-Dame-des-Landes a pratiquement écrasé toutes les autres en fait, par sa dimension, par la victoire en fait, que ça a été, mais aussi parce qu'elle a pu... engendrer que ce soit même au sein même de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi avec les soulèvements de la terre en fait, qu'est-ce que ça a donné. Mais ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression qu'on oublie en fait toutes les autres luttes qui ne sont pas aussi victorieuses, mais qui permettent aussi d'avoir certaines, enfin, de prendre certaines leçons en fait, de comment justement, pourquoi à des moments ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est par rapport au collectif, par rapport en fait aux antagonismes sur le territoire qui ne sont pas suffisamment bien identifiés, sur les processus en fait, à quel moment est-ce que ça a capoté. Donc je trouve qu'il y a tout un travail en fait d'aller au contact en fait de ces collectifs. Parce qu'en fait, leur histoire, elle mérite d'être contée. Et par exemple, je trouverais ça dommage que les Jardins Joyeux, ils s'effacent en fait de la mémoire rouennaise, que les Bouillons, en fait, leur ferme, même s'ils l'ont pas eu, ils ont réussi quand même à imposer tout un usage agricole sur ce territoire. Donc, ça me semble hyper important. Donc, par rapport à ça. Et puis, après, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je trouve que faut pouvoir se réapproprier en fait toute l'histoire des communs, pas seulement celle des enclosures, qui sont très anciennes. Mais aussi celle du 19e, du 20e et puis actuellement, parce qu'en fait c'est toute une histoire collective en fait de la ville qui a petit à petit été effacée et qui mérite en fait qu'on s'y penche à nouveau. Et dans ce que je peux voir avec les chercheurs qui se penchent sur les communs urbains, en fait il y a des histoires des villes qui sont comptées de manière tout à fait différente, que ce soit par exemple Central Park de New York en fait, qui s'est pratiquement construit, semblerait, sur toutes des communautés afro-américaines, où en fait on a rasé en fait plus ou moins des implantations justement urbaines pour créer Central Park, ou même tout un projet urbain qui s'est fait avec la République de Weimar, qui s'est fait en fait justement en détruisant de l'intérieur en fait toutes des communautés populaires, justement parce que il y avait toute une centralité de gauche vraiment populaire allemande qui était en train de se faire, justement avec toute une conscience ouvrière qui se mêlait. Et justement, on a, avec tout un projet urbain, on a choisi de détruire ça parce qu'on voyait que ça pouvait poser un problème en fait dans la ville. Et je trouve que juste déjà en se réappropriant ça, on y voit plus clair en fait dans les temps présents en fait.
Et en ce qui me concerne, moi c'est peut-être un peu plombant, mais moi je pense que vraiment le gros chantier de notre époque, c'est d'apprendre collectivement à renoncer à des choses, d'avoir techniques et des formes politiques qui sont très liées à l'idée de progrès, de rajouter des trucs. Et la trajectoire climatique et géopolitique va plutôt nous amener à un endroit où il va falloir apprendre à renoncer à des choses. Et il faut qu'on apprenne à renoncer démocratiquement, ensemble, sans sombrer dans le fascisme. Je pense que c'est vraiment un gros enjeu de développer une culture autour de ça. Je ne sais pas exactement qui emploie à mon endroit. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir là-dessus. Mais il y a un vrai enjeu à faire culture sur le défaire, qui ne soit pas intérieur et moralisant, mais savoir nous-mêmes renoncer.
Merci. C'est le mot de la fin. Pour ceux qui le souhaitent, de toute façon, on vous invite à poursuivre les échanges de manière un peu plus informelle, comme d'habitude, autour d'un verre et d'un petit buffet. Merci beaucoup à tous les 5 pour cette table ronde. Merci Elliot et à Territoire Pionnier pour l'organisation de cette soirée. Les prochains rendez-vous. Je saute à pieds joints sans avoir révisé. Lundi, donc là, on change complètement de thématique, mais les Rouennais le savent. Dimanche 29 mars, c'est le Carnaval d'Arouen, 2e édition. Donc à cette occasion, la semaine prochaine, il y aura 2 soirées organisées avec le Carnaval d'Arouen. Donc lundi prochain, on doit être à peu près le 26, quelque chose comme ça. Bon, lundi prochain, avec Mathéo Fagé, 23, merci, qui est doctorant. Et qui a fait son mémoire donc sur le carnaval des connards au XVIe siècle et le rapport du carnaval avec les autorités et le Parlement. Donc, il viendra nous présenter son travail. Et puis, donc, le jeudi, là, ça doit être le 26, à 19h ici même aussi, avec l'équipe du carnaval de Granville, pour échanger avec eux autour de ce carnaval. Et puis, donc, le dimanche, le carnaval. Voilà. Exactement. Et puis après, c'est un peu plus lointain, mais à partir du 2 avril, pendant 4 semaines, on aura toute une programmation en lien avec une résidence qui a été réalisée par l'équipe d'Échelle Inconnue au Kazakhstan autour des questions décoloniales, de l'héritage post-soviétique et des questions urbaines, donc en Asie centrale et plus précisément au Kazakhstan, avec plusieurs invités, réalisateurs, architectes, activistes, artistes kazakhstanais et français, principalement, et puis une exposition aussi de deux artistes qui s'appelle T1 sur 2 autour des questions du nucléaire au Kazakhstan. Voilà. Je n'avais pas révisé, je m'arrête là avant de dire une bêtise. Et puis si pour terminer, pour ceux qui ne connaissaient pas forcément le projet cinéma sur les ruines du futur et sur l'Axe Seine et que ça intéresse, on a un petit stand librairie sous notre centre de ressources, notamment avec les revues d'échelle inconnue qui sont en vente et dont les trois derniers numéros parlent de l'Axe Seine, entre autres choses. Voilà, et encore merci à tous les cinq.